RFI. Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Et on parle de Cuba puisque c'est une journée presque spéciale. L'Assemblée nationale va aujourd'hui désigner le successeur de Raúl Castro. Raúl Castro, c'est le père des réformes économiques décidées en 2013. Alors c'est le lieu et le moment de voir quel est son bilan.
Alors maintenant, grâce à ces réformes, les Cubains peuvent voyager, créer des petites entreprises, vendre leur appartement. Cette petite dose de libéralisme a fait grimper le niveau de vie. D'abord de tous ceux qui ont créé leur job. Les cuenta propistas, je sais pas si l'accent est correct, sont environ 500 000. C'est 12% de la population active. Ils sont bien mieux lotis que ceux qui travaillent encore pour des entreprises publiques pour environ 30 dollars par mois. Cela forme toujours les deux tiers des actifs. Ces réformes n'ont donc pas profité à la majorité des Cubains et n'ont pas réussi à enclencher un décollage à la chinoise. Ces dernières années, le taux de croissance cubain est de 2,5%. Il faudrait 7%, disent les autorités, pour assurer le développement de l'île. C'est vrai que seulement une toute petite partie des réformes annoncées, promises par Raúl Castro, a été mise en œuvre. Il y a un sentiment d'inachevé, reconnu par les autorités.
Est-ce que Raúl Castro s'est inspiré du modèle chinois ?
Alors pour certains projets, la création de parcs industriels en zone franche, par exemple, c'est la vocation du port de Mariel situé tout près de la Havane. Il commence à attirer des entreprises étrangères. On est loin des 3 milliards de dollars d'investissement escomptés. Il est donc un peu tôt pour faire de Raúl Castro le Deng Xiaoping des Caraïbes. D'abord aussi parce que les Cubains cherchent leur propre voie en conservant les acquis de la Révolution. La santé, l'éducation gratuite nourrissent la fierté et la légitimité populaire du régime. Les dirigeants prennent donc leur temps pour ne pas brusquer ce système. Les licences accordées pour créer une petite entreprise ont été suspendues l'an dernier pour une quarantaine d'activités parce que l'enrichissement rapide d'une minorité remettait en cause le fondement égalitariste de cette société et aussi parce que les autorités ont bien du mal à définir le statut juridique de l'entreprise privée dans une économie toujours administré.
Avec l'ouverture, le tourisme est devenu l'une des locomotives de l'économie.
Oui, 4 millions de visiteurs par an, eh bien, c'est fait l'un des principaux moteurs de l'économie. Les activités historiques de l'île, la canne, le rhum, les cigares, fournissent toujours des revenus d'exportation, mais la première source de devises, devant toutes les autres, eh bien, ce sont les revenus des médecins envoyés à l'étranger. Ils sont environ 40 000 présents dans une soixantaine de pays. Cette manne de diplômés qui s'exportent illustre la force du pays, une jeunesse très bien formée. Cela peut devenir une faiblesse si les nouvelles générations qui se frottent au monde extérieur ne trouvent pas sur l'île un emploi à la hauteur de leurs qualifications, de leurs attentes. La biotechnologie fait partie des secteurs de pointe mis en avant, des secteurs prometteurs qui pourraient assurer un débouché à ces nouvelles générations.
Dominique, quels sont les défis économiques qui attendent le nouveau président Miguel Díaz-Canel ?
Il y a un gros défi agricole urgent à relever. 80% des besoins alimentaires sont importés. Donc ça fait quand même pas très bon effet pour un pays qui chérit tant son indépendance. La moitié des terres en friche ont été cédées aux paysans, mais il manque d'équipement pour les valoriser. Les petits boulots prospèrent surtout en milieu urbain. Ils ont peu bénéficié aux campagnes. L'autre plaie de l'économie, c'est la coexistence de deux monnaies. Elle a aussi été aggravée par l'apparition du secteur privé. Le peso convertible qui permet d'acheter des biens importés remplit les poches des auto-entrepreneurs, tandis que les fonctionnaires continuent à être rémunérés en peso cubain. Les unifier, c'est indispensable pour éviter tous les surcoûts générés par ce système complexe. Mais c'est une opération à haut risque. Ceux qui ont épargné en peso convertible pourraient y laisser des plumes dans sa disparition. Une option socialement explosive. Miguel Díaz-Canel va donc prendre son temps pour accomplir cette réforme annoncée depuis 2011.
En bref, l'endettement mondial atteint un niveau record, prévient le FMI.
Le fonds encourage vivement les États à profiter de la bonne santé actuelle de l'économie pour améliorer au plus vite leurs finances. Sinon, en cas de nouvelle crise, eh bien, ils se trouveraient fort dépourvus. La dette pèse 12% de plus qu'en 2009, c'est-à-dire au moment où a commencé la crise financière.
Merci Dominique Bayard.